Make their Christmas wishes come true. Whether they love Disney's Frozen 2, want to jet off on Barbie's dream plane, or ready up with the Fortnite Battle Royale collection. At Littlewoods.com, you'll find all the toys they love, all with inclusive delivery and free returns. Own Christmas. Shop now at Littlewoods.com.
Vous écoutez
RMC.
Forcément qu'il y aura des priorités, mais ça ne veut pas dire que la dernière des priorités sera une priorité aussi.
RMC.
Vous comprenez ce que je veux dire ?
Je vous entends parler, je vous entends écrire.
C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot.
Nicolas Jamain.
Et oui, l'after est là, bien sûr, jusqu'à minuit à la radio sur RMC, à la télé sur RMC Sport News, avec Jonathan Macardy, avec Ludovic Obraniak et Coach Courbis. After un peu spécial, puisqu'en fil rouge, nous suivons le championnat du monde de boxe poids lourd. Andy Ruiz Junior face à Anthony Joshua dans un instant. Le programme de l'after pour l'heure. Le débrief de la victoire du PSG, bien sûr, avec notamment les appels, appelez-nous 32-16. Également, les drôles de dames, les défaites du Bayern Munich, les défaites de la Juve ce soir, et de City également. En Angleterre, les drôles dames seront avec nous. Bien sûr, Cyril nous attend au 32-16 supporters parisiens. Mais d'abord, Morgan Maury au commentaire de ce combat entre Andy Ruiz Jr. et Anthony Joshua. 11e reprise.
Encore une minute dans cet avant-dernier round. Andy Ruiz va avoir besoin de mettre Anthony Joshua sur les fesses pour conserver ses ceintures. Je vais vous prendre une image. J'ai l'impression que par moment, Anthony Joshua, il nous fait du Vladimir Klitschko. Il en fait très peu. Exactement. C'est extrêmement méthodique. Un coup, je me désaxe. J'essaye d'éviter au maximum les moments chauds, justement. Andy Ruiz en a très peu à se mettre sous la dent lorsqu'il est dans la distance et qu'il peut envoyer
donc
son
pour l'instant Morgan, pour être très clair, au pointage
8-3
au pointage
Joshua
RMC, oui. Ouais,
est largement devant,
oui, avantage
pour que Andy Ruiz conserve ses ceintures. Il faut qu'il allonge ou qu'il mette KO.
Est-ce qu'on est proche, Morgan, d'un Pacquiao Mayweather?
Pacquiao.
Au niveau de l'escroquerie, on n'est pas.
Non, c'est pas meilleur. C'est largement meilleur que Pacquiao Mayweather. Largement, largement.
Mais en tout cas, là, ce qu'on peut se dire, c'est que quand on voit Ruiz et Joshua, qui sont donc deux des quatre meilleurs poids lourds du moment, il y a quand même une galaxie d'écart entre ces deux-là et Tyson Fury et Deontay Wilder.
Qui s'affronteront le 22 février prochain, justement. Voilà donc la fin de la 11e. Morgane, avec toi.
Oui, Anthony Joshua qui tourne autour de son adversaire. Il ne laisse aucun espace à Andy Ruiz et il regagne son coin. Fin de cette 11e reprise avec le sourire. Ouais, Anthony Joshua, 3 minutes à tenir et normalement les ceintures reviendront en Grande-Bretagne pour Anthony Joshua. Andy Ruiz va devoir créer un exploit pendant les 3 dernières minutes. Ça va être la bagarre forcément pour l'Americano-Mexicain, ce qui va être capable d'allonger le champion britannique. C'est la question. Une minute, on est dans les coins et c'est reparti pour les 3 dernières minutes de ce championnat du monde poids.
Si tu ramènes les ceintures de cette manière-là, ça va jaser quand même. Hein.
Ouais, bon, après il a fait son combat, hein, Joshua, hein, c'était pas simple.
Il a fait son combat, il allonge son jab et il se désaxe.
Ouais, mais ça fonctionne, tu sais, quand on a pris une belle il y a 6 mois. Bon. À la surprise générale, t'as envie de revenir tranquillement, humblement,
faut que tu
de récupérer tes ceintures.
Faut que tu laves l'affront avec panache.
Ah, c'est ton esprit, ça. Ouais, panache. Peut-être qu'il y aura une belle, hein, du coup. Hein. On en parlera tout à l'heure, bien sûr. Tiens, Cyril, supporter parisien, est avec nous au 32-16. Salut, Cyril.
Bonsoir, messieurs.
Et bienvenue dans l'after du samedi soir. Je rappelle la victoire du PSG 3-1 face à Montpellier. Paredes avait ouvert le score contre son camp à la 41e. Neymar, après un rouge de Pedro Mendes, marque sur coup franc. Mbappé, 2 minutes plus tard. Et Mauro Icardi à la 81e. Succès 3-1 du PSG. 39 points après 16 matchs joués. Qu'est-ce que tu retiens de cette victoire parisienne? Évidemment, elle est à nuancer, notamment au regard des 73 premières minutes.
Bah forcément un sentiment hautement contrasté, parce que comme tu le disais, Nicolas, bon bah oui, les 3 points sont là. Ce qui est évident, c'est que l'expulsion de Pedro Mendes a été un élément létal pour Montpellier, puisqu'en 2 minutes le score a été complètement chamboulé, donc les 2 buts ont été marqués. Donc moi je retiendrai une forme de pragmatisme quand même du PSG, qui pour une fois a su entre guillemets sentir l'odeur du sang et se précipiter entre guillemets et faire les choses de manière clinique pour régler la situation. Donc je retiendrai ça comme aspect positif, avec le côté un peu pugnace quand même de Neymar, qui nous a fait une version un peu moderne de Jekyll and Hyde. Une première mi-temps absolument catastrophique, enfin, tout à l'envers. et une deuxième beaucoup plus éclairée, beaucoup plus judicieuse entre guillemets. Maintenant, alors nonobstant ce fait, et puis les sorties précoces de Ghana et de Kimpembe, je veux encore une fois mettre le doigt sur le point qui fâche, c'est-à-dire les errances tactiques de Thomas Tuchel qui nous a encore bricolé un milieu en mousse. Avec un Paredes, mais un Paredes qui est juste pitoyable.
C'est le frère du joueur qui joue avec la sélection argentine.
Ouais, ou peut-être son cousin, je sais pas, mais en tout cas, c'est une escroquerie, hein. Enfin, c'est une escroquerie sur pas de ce type.
Je t'assure, c'est quand même hallucinant de le voir jouer avec l'Argentine où il fait des matchs très corrects et de le voir jouer avec le PSG.
Cyril,
je pense que le problème, c'est peut-être l'entraîneur, tu vois.
Pause, Cyril, tu restes avec nous et on développe, cette performance du PSG et le milieu de terrain parisien notamment. Dernière minute d'espoir pour Andy Ruiz face à Joshua, Morgan Morin.
Ah, il donne tout ce qu'il a, le champion du monde en titre. On est contre les cordes d'Anthony Joshua qui vient poser les gants sur le ring déséquilibré. L'arbitre qui va faire repartir le combat, 42 secondes, Andy Ruiz, regard déterminé, du sang qui coule sur sa joue gauche, il a envie d'allonger Joshua, ça se voit, il avance, mais ce sera probablement trop tard. Encore 30 secondes, voilà un exploit à la Rocky, le Rocky de la frontière, Andy Ruiz, Anthony Joshua qui tourne autour de sa proie, il l'a tenu au lasso pendant ses 12 reprises, Anthony Joshua, il a évité les moments chauds, il le tient au bout de son gant, et il va retrouver ses ceintures, Anthony Joshua dans 20 secondes, Anthony Joshua, il est au centre du ring, il fait travailler son bras avant et derrière avec un crochet du bras arrière, son bras droit. Andy Ruiz qui lui fait, allez, viens là, viens en terminer, viens te battre, il fait des gestes avec ses gants. Andy Ruiz et Anthony Joshua, bien sûr, qui ne vient pas. Les 10 dernières secondes, c'est terminé pour ce championnat du monde poids lourd. Rob McCracken, l'entraîneur d'Anthony Joshua, qui serre le poing, qui saute de joie. Joshua qui sourit à peine. Certains, à mon avis, d'avoir fait le travail pour récupérer les ceintures de champion du monde. Andy Ruiz qui se fait retirer le protège-dents par Manny Robles, par ses coachs. Et Eddie Hearn, le promoteur d'Anthony Joshua, qui vient lui taper dans la main, pris dans les bras par son coach. La tête basse d'Andy Ruiz, ses bébés, comme il les appelait, ses ceintures. Est-ce qu'elles vont repartir en Grande-Bretagne? C'est fort possible. La décision des juges dans une poignée de secondes.
Tiens, c'est marrant là, sur le direct studio, Paul Casati nous dit Joshua il a gagné à la DD, à la Didier Deschamps.
Il a raison, Morgan a fait une super comparaison, c'est il a gagné à la Klitschko.
Ouais, voilà, sobrement
pas beau, hein,
pas de panache, un jab très propre. Ce qui est très important, c'est le fondamental. Il a maîtrisé les deux fondamentaux de la boxe, le coach, direct et les déplacements.
Comment tu l'as vu ce combat, toi?
Je pensais pas voir. J'ai vu un combat que je pensais pas voir comme ça, donc je m'imaginais moi que ça allait durer 3-4 rounds,
ouais, pareil,
un maximum. Je m'imaginais un Joshua qui allait être comme un diable en train de mettre KO Ruiz.
Mais non.
Et là, non.
Mais c'est normal que ça soit passé comme ça. Je te rappelle, Roland, que Joshua s'est fait mettre KO pour Andy Ruiz. Et quand tu te fais mettre KO, t'as forcément, d'une part, l'appréhension de revenir boxer. Surtout si rapidement après, parce que c'est quand même une concussion, c'est 6 mois après, c'est quand même très risqué. Et d'autre part, contre le mec qui t'a humilié dans ton premier combat, qui devait te révéler aux yeux du public américain. C'est normal qu'ils soient un petit peu sur le reculoir.
D'accord, un petit peu oui.
Mais c'était beaucoup.
Tu vois, nos amis, côté footballeur, Ludo et coach, ils auraient voulu plus de panache. Ils auraient voulu voir un Joshua laver l'affront new-yorkais.
Là, je trouve qu'il a joué en 5-3-2 avec 5 milieux défensifs et 2 numéro 8.
Tu sais quoi, quand j'ai vu la pesée, je savais à quoi m'attendre. Tu savais que Joshua, dans certaines déclarations de nos consultants, tu sentais qu'il y avait quand même une certaine crainte, une certaine peur, malgré le fait qu'il se soit super entraîné, perte de poids, il est affûté. Tu sentais psychologiquement, il n'était pas tout à fait remis. Et puis Ruiz, tu sens que voilà, il est venu, il a touché, voilà.
C'est 7 millions de dollars à New York.
C'est le nouveau Ruiz.
Et là, on est sur du 20.
C'est le nouveau Ruiz.
10 millions contre 80 millions.
Voilà, nouveau Ruiz.
10 millions là.
Il a pris les sous. Il a pas forcé son talent. Il
fallait la décision. La décision. Ludo
Morgan.
118-110. Steve Gray scores at 119-109. All three scorecards go to the winner by unanimous decision. Et la fierté combattante de Londres, Anthony Joshua, nouveau champion du monde, WBA, IBF et WBO. Les cotillons qui tombent sur le ring et Andy Ruiz Junior qui se tape le visage avec ses poings. Et c'est la danse folle autour d'Anthony Joshua. Ouais. Il avait trop peur de perdre sa légende, de tout perdre, Anthony Joshua. Il s'en sort sans grand panache, mais il arrive à s'en sortir face à Andy Ruiz. Mais donner un match 3, une trilogie à ce garçon après ce qu'il a montré lors lors du premier combat, ce serait mérité.
Il est comment là, Ruiz? On ne voit pas sur nos images en tout cas. On verra comment il va réagir. André Junior, donc dépossédé ses trois ceintures mondiales.
Il est heureux. Il est heureux. Il a pris 8 kilos pour le match, c'est-à-dire qu'il est venu, il voulait pas être ridicule, il a pris son oseille, il aura fait un troisième match. Bah bon, moi c'est, franchement, je suis très 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 déçu du comportement de ce garçon qui a eu une chance d'accéder au titre alors que c'était même pas prévu, qu'il l'a pris le titre et qu'il l'a pas respecté. Pour moi, un mec qui vient de là où il vient, il y a combien de mecs qui aimeraient se battre?
Non, mais en fait, quand tu fais des sports de combat, il n'y a pas de mignonnerie à voir. Il faut se faire de la thune ou rien. Ça s'appelle le prize fighting. C'est comme ça l'expression qui est consacrée en anglais. C'est-à-dire que tu combats pour l'argent. À partir du moment où tu peux perdre des espérances, de l'espérance de vous-même, crever dans une cage ou sur un ring, si tu prends pas de thune, il n'y a aucun intérêt.
Il a mis à l'abri sa famille.
C'est fini. Voilà. C'est fini. Et tu sais, c'est normal.
Coach, ne fais pas la revanche.
Bah, il va pas refuser la thune qu'on lui propose.
Aujourd'hui, même en football, je crois qu'il y a des clubs qui combattent pour l'argent.
Ah oui, aussi. T'as raison, coach.
Effectivement. Voilà, en tout cas, il a pris 20 millions de dollars de combat.
C'est le plus beau titre au monde auquel il a eu une chance d'accéder.
Il le défend même pas correctement.
Arrêtez de conneries.
Voilà, merci Morgane, excellente soirée à toi. Anthony Joshua qui récupère ses trois ceintures mondiales. La suite, on verra. On attend avec impatience le combat de deux autres poids lourds, évidemment. Deux des quatre meilleurs, 22 février. Tyson Fury, le Gypsy.
Ah, ça sera autre chose.
Face à Deontay Wilder, l'américain.
Ça sera autre chose.
Allez. Paris, c'est donc imposé.
Là, c'était l'Europa League. Là, il y a la Ligue des Champions qui arrive en février.
On verra.
Effectivement. C'est vrai que lui, il est bon.
Cyril est toujours avec nous. Ça va, Cyril? C'est toujours avec nous?
Pardon,
Cyril, pour le.
Parlons du PSG, les gars. Je voulais qu'on recentre un peu sur. Parce qu'il y a beaucoup de réactions sur Neymar, évidemment. Les deux.
Notre auditeur voulait parler de Tourelle. Des choix de Tourelle. On était là-dessus.
Alors, c'est ce qu'on va faire. On va écouter Tourelle tout de suite. Ouais. Réaction après le match. Analyse de Thomas Tourelle de la victoire parisienne 3-1 face à Montpellier. Écoutez le coach du Paris Saint-Germain.
On a montré une réponse avec qualité et avec aussi mentalité. Et c'est une belle victoire, c'est mérité. Et c'est pas facile. PSG n'a pas gagné ici depuis 4 ans, 5 ans. Et voilà, on a fait ça avec deux joueurs blessés. Avec les circonstances très difficiles, et je suis super content et je dois dire je suis très très content avec cette victoire et les manières.
Alors il est content du résultat mais pas seulement de la manière. Cyril, je sais pas comment tu réagis au propos de Thomas Tourelle.
C'est assez consternant, hein. Consternant qui s'estime heureux. En effet, il peut être heureux puisque l'histoire du match aurait clairement pu être tout autre. Montpellier, enfin moi je salue la prestation de Montpellier, hein, franchement, ils ont entamé le match comme il fallait en mettant une dimension physique importante. Comme d'habitude, dès que ça devient physique, on n'est pas à l'aise. Donc voilà. Maintenant, moi je salue vraiment, c'est le pragmatisme que je salue du PSG. En tout cas, certainement pas une adaptation tactique ou justement un esprit tactique. Moi c'est ce que je déplore depuis notamment le début de la saison. Hormis de très très rares épisodes, Thomas Tourelle nous a jamais démontré justement une mainmise tactique, des innovations, une adaptation. Donc concrètement, il va faire all-in. Pour moi, il va faire all-in en Ligue des Champions, tout en sachant que Pochettino est maintenant sur le marché.
Exactement.
Et moi, je regarde ça d'un œil forcément attentif.
Laurent, écoute, je te demande, il y a une petite théorie. Depuis que Leonard est revenu, ma petite théorie, c'est qu'il va refaire le même coup qu'il a fait avec Antoine Comboiré. C'est qu'il va mettre un grand coup de chausson à Thomas Tourelle cet hiver et qu'il va prendre Pochettino en janvier.
Toi, tu penses qu'on reverra plus en 2020?
J'étais sûr qu'il le ferait si Paris avait perdu contre le Real Madrid. Ça lui aurait servi d'excuse. Mais je pense quand même que c'est l'idée que Leonard a en tête.
Coach, je suis pas d'accord avec toi.
Je suis pas d'accord dans le sens que
Pochettino Allegri, hein.
Que je pense qu'il va pas prendre le risque, justement, de donner les rênes à un nouveau coach en janvier, tout en sachant que le parcours finalement, et même si après on a le droit et on a raison quand on se plaint qu'on voit pas ça, qu'on voit pas si la gestion de ces histoires, mais les résultats sont quand même là. La qualification est liée, la place de premier est liée. Et si par exemple il arrive un Pochettino et un Allegri qui justement ne réussissent pas, on dira donc à Leonardo qu'il aurait fallu garder Tourelle.
Mais c'est ce qu'il a fait. Quand il vient Antoine Comboiré, son premier.
Alors c'est différent. Comboiré est arrivé avant l'ère qatarie.
Et puis je crois que Comboiré venait justement d'échouer dans la qualification de la Coupe d'Europe de l'époque.
Non, moi je suis d'accord avec toi. Je pense pas que Leonardo prendra ce risque. Maintenant, moi j'en veux quand même à Tourelle, parce que pour moi déjà il foule au pied l'histoire de mon club. Quand je vois le cas de Cavani, moi j'en suis malade de voir comment cette légende, ce type qui incarne pour moi le club de toute l'ère qatari, c'est le joueur qui incarne les valeurs.
Là-dessus sur Cavani,
sur ce qu'il dit Cyril, quand tu dis qu'il incarne l'RQSI, je pense même qu'il a réussi le fait de dépasser, qu'il incarne le PSG au-delà de l'RQSI. Alors que Zlatan, c'est vraiment PSG-QSI. Cavani, c'est vraiment il est rentré dans l'histoire longue
globale du Paris Saint-Germain.
Mais Zlatan était un mercenaire. Cavani, on le voit bien, c'est un type. Il n'y a pas un mot plus haut que l'autre. Il respecte l'équipe. C'est un joueur de très très grand standing. Combien de joueurs accepteraient sa situation? Vous avez vu Mbappé comment il a réagi lorsqu'il est sorti?
Alors Mbappé, c'est deux fois. C'est bien que tu le dis, Cyril. Je voulais en parler. Mbappé face à Nantes, quand il sort, il est pas content. Là, il sort à la 91e minute de jeu. Le PSG mène 3-1 face à Montpellier. Thomas Tuchel vient le saluer, le remercier pour sa prestation, et lui, il repousse quasiment Thomas Tuchel, en fait. Il veut pas ça. Il est pas content de sortir. Je sais pas.
C'est la frustration du champion.
Quelle position? Alors voilà. Parce que c'est pas forcément condamnable comme comportement, Ludo, en fait.
Non, pas du tout.
Tu vois, Ludo? Attends, Ludo, vas-y. Ton avis là-dessus. Parce que certains disent, pour être très clair, il a la grosse tête de Mbappé maintenant, c'est le boulard. Il doit accepter de sortir aussi à la 91e.
De mon poste de consultant, je suis pas ravi de ce comportement. C'est l'accumulation de plusieurs petites choses, en fait, qui fait que ce garçon était d'une fraîcheur, d'un sourire, de plein de choses. Après, il lui est tombé énormément de choses dessus. C'est pour ça que je tempère au maximum ma pensée vis-à-vis de Mbappé. N'empêche que ce qu'il fait au Ballon d'Or, là, où il envoie valser le mec, tu vois ce que je veux dire? Il y a un petit soupçon d'arrogance qui commence à arriver, qui est déplaisant aux yeux des supporters, je pense, et même de nous consultants. Après, moi, j'ai été joueur, râler en sortant, je l'ai fait, tu vois, donc je vais pas non plus lui jeter la pierre. Garcia, à chaque fois qu'il me faisait pas rentrer ou que je sortais, pareil, j'étais jamais content. Donc, je vais pas lui taper dessus maintenant. Après, moi, c'est sur. Je crois que l'aventure Tourelle a atteint.
Pour ça, c'est terminé.
Oui, c'est mort. L'histoire, elle est morte. Il faut passer à autre chose le plus vite possible. Parce que ce PSG-là nous propose la même chose depuis maintenant trop longtemps. Et que moi, je suis admiratif de du talent quand il est au service du collectif. Or là, le talent, il s'exprime seul. Et parfois, il éteint même les mecs autour de toi. C'est-à-dire que les meilleurs matchs du PSG, pour moi, ils ont été sans Neymar et sans Mbappé. Parce que tu sens une équipe beaucoup plus homogène, qui a beaucoup plus envie d'être ensemble. Dès qu'ils sont là, les deux, ils vampirisent et ils éteignent tout ce qu'il y a autour. Alors bien sûr, le coup franc, il est extraordinaire, c'est fantastique. Mais putain, combien de fois dans la première mi-temps, il a pris le ballon, il a essayé de... tu vois, il n'y a pas d'osmose de... Il n'y a pas de jeu collectif. Le jeu collectif, c'est ça qui t'emmènera loin. Toutes les équipes qui vont dans les carrés, il y a un minimum de jeu collectif.
Et là, mais c'est le coach, mais c'est justement le coach.
Oui, c'est ça, c'est pour ça que je te dis que c'est l'histoire, elle est morte. Parce que il se passe rien. Ça fait plusieurs fois que tu t'aperçois que c'est la même chose et c'est pas corrigé. Il y a rien qui est
coach,
corrigé.
Coach Corbis, je sais pas si je prolonge tes propos, Ludo. Si le PSG en reste là, il va dans le mur en Ligue des Champions. T'es d'accord avec ces propos?
Tu te rends compte que
je finis.
C'est quand même ce soir. On se dit quand même clairement les choses. Si Pedro Mendes n'est pas expulsé, il revient avec son cerveau en deuxième mi-temps. Je ne sais pas si le Paris Saint-Germain ne serait-ce que revient au score.
Ouais. Non, Montpellier était en contrôle. Montpellier était vraiment en contrôle.
Il y avait zéro au cas.
Vas-y, Roland, sur l'avenir à court terme du PSG. On pense forcément au mois de février, au mois de mars.
Le football réserve tellement de surprises que c'est pour ça que c'est très passionnant. Mais c'est vrai que tu me demandes mon avis, je le dis suffisamment. Je trouve vraiment aberrant certaines façons de voir les choses, notamment cette histoire de nous expliquer avec l'effectif de Paris Saint-Germain, quand on a la chance d'être entraîneur et d'avoir cet effectif-là, et de nous expliquer que la meilleure formule, c'est obligatoirement un 4-3-3, mais ça doit être une des formules, le 4-3-3, mais tu dois te permettre aussi de que tes adversaires subissent les quatre offensives sur cinq que tu peux avoir. Donc il y a des explications que je comprends pas. La saison dernière, par exemple, je l'ai vu travailler sur un schéma où il y avait trois arrières centraux, où il y avait quatre milieux et où il y avait trois attaquants. Mais dans ces trois attaquants, c'était Neymar qui était en poste dans l'axe numéro 10 derrière Cavani et Mbappé. Mais ça me paraissait être redoutable. Et chaque fois, je me disais, j'aimerais pas être l'équipe d'en face. Et là, parce qu'il y a une situation de dépannage dans un match où il manque les trois monstres et que c'est comme quand tu joues à 10 contre 11. Donc tu as mis Marquinhos, tu l'as, c'est pas son poste mais ça fait rien. Gaï fait le match de sa vie. Verratti, et là ça c'est la solution
pour gagner, pinceau comme ça,
pour gagner la Champions League. Ben non, tu as fait ce dépannage là. Bravo, mais tu as un effectif, si tout le monde est en forme, que tu peux te permettre
de faire plus que du dépannage
de mettre des équipes redoutables où j'aimerais moi ne pas être les adversaires, ou alors il me faudrait vraiment de cacher la
Merci Roland. Et une bonne nuit parce que on va te libérer, Roland. Excellente fin de soirée.
Bonne fin de soirée.
Bravo pour Roland, il a fait 3h30 là, ouais, avec nous là. C'est un plaisir. 4h.
À demain matin.
Attends Roland, attends la pause pour partir parce qu'on est également à la télévision. Et t'es là demain matin. Merci Roland, excellente soirée à toi. L'after est là.
Allez, salut à
tous. Jusqu'à minuit bien sûr. Et Jonathan Riccardi avec Ludovic Obraniak. Je vous rappelle que Anthony Joshua a récupéré ses 3 ceintures mondiales, bien sûr, chez les poids lourds en battant Andy Ruiz Junior au point à l'unanimité. Juge dans un instant les 4 drôles de dames au programme. On est ensemble jusqu'à minuit. Les défaites du Bayern Munich, de Manchester City et également de la Juve, la première de la saison. A tout de suite.
RMC, l'After Foot, Nicolas Jamain.
Oui, l'After est là jusqu'à minuit avec Jonathan Riccardi, avec Ludovic Obraniak, bien sûr, et avec nos 4 drôles de dames pour terminer l'After du samedi soir. Et une énorme actualité partout en Europe, Angleterre, Allemagne, Espagne, Italie, tout le monde sera là. Mais on va démarrer par l'amitié germano-anglaise, anglo-germanique, puisque nous accueillons dans l'After ce soir Paulo Breitner et Julien Laurence. Bonsoir, messieurs.
Bonsoir.
Salut, Nico. Salut, les gars.
Il y a de l'ambiance derrière vous, là.
Fermez la fenêtre, les gars.
Ouais, il y a le courant d'air, là.
Là, c'est encore Julien qui est encore, Paulo, je sais pas où, là, dans des endroits bizarres.
Je suis juste devant le Ivy Asia, qui est un des restaurants qui vient d'ouvrir à Londres, voilà, qui est plutôt
ouais,
sympa.
Ouais. Donc, ça va la vie.
Bonne soirée,
ça va la vie. Tranquille.
Bonne soirée qui s'annonce.
Les ceintures reviennent chez vous, là, Julien, là. Les ceintures mondiales, poids lourd. T'es au courant?
Ah oui, les ceintures. Bien sûr.
Ah, mais ils ont surtout le champion linéal. C'est le truc le plus important, le champion linéal est anglais, c'est Tyson Fury.
Tyson Fury et Anthony Joshua qui a récupéré ses 3 ceintures mondiales il y a quelques minutes. On l'a vécu sur RMC. Mais t'as vécu également un derby de Manchester City face à United. Passionnant. En tout cas, il y a une victoire. Et c'est une victoire de United 2 buts à 1, je rappelle, hein, Rashford ouvre le score pour les Red Devils sur penalty à la 23e. Martial à la 29e, but que je trouve superbe. Trop de souris.
Comme souvent avec Martial.
Et quand il marque, c'est beau. Et Otamendi avait réduit l'écart à la 85e minute de jeu. 14 points d'avance, c'est ça un peu le bilan pour Liverpool sur City. Liverpool qui a gagné aujourd'hui également, Julien.
Tout à fait, à Bournemouth 3-0. Encore une fois, sans vraiment avoir à forcer leur talent. Ils ont plutôt bien géré. On a vu une passe décisive magnifique de Mo Salah. Une talonnade dans la surface pour Naby Keita, qui a été très bon dans ce match-là, puisqu'il a aussi rendu l'appareil à Salah sur le troisième but. C'était du bon Liverpool, mais sans plus. Et ça a mis la pression forcément sur City, qui donc recevait United dans la foulée en fin d'après-midi. Et c'est vrai que, en tout cas, moi je trouve, hein, on en a souvent parlé dans l'émission, que cette équipe de City, elle a perdu beaucoup de fluidité dans son jeu ces dernières semaines, qu'elle a perdu énormément de confiance avec le ballon. Même si elle se crée des occasions, elle a beaucoup de soucis aussi dans l'efficacité face au but. Je trouve que les latéraux, par exemple, n'apportent plus rien du tout, quasiment plus rien du tout, que ce soit à droite ou à gauche. Benjamin Mendy, par exemple, aujourd'hui était sur le banc des remplaçants. C'est Angelino qui l'a remplacé. Angelino, c'est un bon joueur, mais c'est pas un joueur exceptionnel. C'est en tout cas pas du niveau d'un Benjamin Mendy qui serait à 100%. Donc j'ai du mal à comprendre certains choix de Guardiola aussi. Et puis surtout, je trouve que c'est encore très décevant dans le jeu pour City, qui s'est incliné 2-1 dans un derby qui, finalement, ils auraient sûrement pas mérité de gagner, même pas de faire match nul, je pense, parce que United, de son côté, a parfaitement mis en place son plan de jeu. C'était ce qu'il fallait faire. Ils ont su jouer en compte comme il fallait. Rashford, comme ces dernières semaines, a été très bon dans l'utilisation du ballon, dans la façon dont il a percuté. Ouais. Ouais, et puis voilà, ils ont il y a pas de au milieu de terrain, par exemple, c'était Fred et McTominay, c'est peut-être pas du niveau de Bruyne et Gundogan, par exemple, mais ils ont fait le travail comme il fallait, ils se sont battus pour l'équipe, et dans l'état d'esprit, j'ai trouvé United très très bon, bien meilleur que City.
Ludo, t'as vu le match également. City dit bye bye au titre en Première Ligue.
Ouais, c'est surtout après la puissance offensive de City est pour moi toujours la même. Même si tu as raison, au niveau des latéraux, il y a moins de qualité en termes de centre, en termes de prise d'initiative. Mais clairement, pour moi, le problème, il est défensif ce soir. City a laissé le début de match, en tout cas la première mi-temps. C'était porte ouverte, quoi, tu vois, avec des joueurs.
Ah, c'est trop facile.
Ouais. Ben ouais, et avec des joueurs de la qualité de Martial, de la vitesse de Rashford. Ils ont été quasi absents. Alors, Fernandinho était derrière, non?
Défenseur central, encore une fois.
Bon, voilà. Pour moi, le problème, clairement, c'est que à City, t'arriveras jamais à passer ce cap qu'ils veulent passer, en tout cas en Ligue des Champions, parce que derrière t'es trop fébrile.
Toi, tu crois pas non plus à Gabriel Jesus, hein, Ludo, hein?
Ah, bah, alors lui, non, sûrement
non,
pas.
Non. Jesus, il croit pas.
Je l'ai dit ici à maintes reprises, même Fred, pour moi, c'est meilleur que Gabriel Jesus.
Pas Fred Armel, Fred le Brésilien.
Je le dis, je le redis, et pour ceux qui n'ont pas compris, pour moi, Fred en QI football, c'est 10 fois supérieur à Gabriel Jesus. Au moins, il arrivait à bonifier les autres autour de lui. Mais ce joueur-là, en tout cas, j'aime pas du tout. On l'a compris.
Il manque de maturité dans son jeu, tactiquement. Même si Guardiola l'a quand même fait immensément progresser.
Je l'ai vu avec le Brésil. Je le vois encore là.
Avec le Brésil, Tite en a fait son fer de lance quand il prend en main la sélection du Brésil.
Le mondial en Russie.
Il est exceptionnel.
Pas
sur le mondial, il n'est pas exceptionnel.
Non, je te parle
quand il prend
la sélection brésilienne, si le Brésil se remet la tête à l'endroit, c'est avec un Gabriel Jesus qui est installé au poste de numéro 9 à la surprise générale et qui est exceptionnel au début. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Mais il a eu une période de aller, je dirais, 6-8 mois, ou notamment en sélection en Angleterre, je ne sais pas trop, parce que je ne suis pas trop, Julien est mieux placé pour le dire.
Il a
6-8 mois. Il a eu
une très bonne période.
Ouais.
Il a eu une très bonne période chez nous aussi. Après, c'est dans les matchs comme celui d'aujourd'hui où tu te rends compte à quel point Agüero peut leur manquer.
Ouais.
Pas simplement dans la finition, mais aussi parce qu'il est capable, avec une demi-occasion, de marquer un but, parce qu'il est aussi meilleur dans la construction du jeu, même si c'est pas non plus un joueur qui participe énormément à la construction. C'est pas Firmino, mais il est quand même beaucoup plus important que Gabriel Jesus. Et après, quand en plus, si Jesus n'est pas dans un bon jour et qu'en plus Sterling est très bien pris comme il a été aujourd'hui par Wan-Bissaka, bah forcément, il te reste plus grand chose. Il te reste un Bernardo Silva qui, moi, je trouve, perd encore beaucoup trop d'énergie à défendre. On l'a vu, c'est lui d'ailleurs qui concède le penalty sur Rashford pour le premier but. Pour moi, il a rien à faire là. Il a rien à faire à défendre sur Rashford dans sa propre surface de réparation, et il perd de la lucidité après quand il a le ballon dans les 30 derniers mètres adverses. Il y a plein de choses dans cette équipe qui finalement ne vont pas, et j'ai du mal à comprendre comment Guardiola, qui pourtant est complètement obsédé par son équipe, par le football, par la tactique, arrive à un point où aujourd'hui t'as Firmino qui joue en défense centrale alors qu'il devrait jamais jouer là. Ils auraient dû y penser bien avant qu'ils avaient pas assez de couverture dans l'axe.
Fernandinho, s'il y avait un problème pour
la porte. Fernandinho, le problème quand tu l'as pas au milieu de terrain, c'est que Rodri, c'est un très bon joueur de ballon, il est très élégant, il est très beau à voir jouer, mais il a pas de vis, et défensivement, il est pas du tout au niveau de Fernandinho qui pourtant a 34 ans.
Mais j'aurais préféré, tu vois, en plus le Camarez, parce que Riyad Mahrez, à chaque fois qu'il joue, il est excellent. Donc tu vois, j'aurais préféré ouais. même ce soir voir Sterling, Sterling en pointe et Mahrez de l'autre côté.
Par contre, sur, tu parlais d'Aguero tout à l'heure, Julien, il y a quand même un truc moi qui me fascine, c'est qu'au final, j'ai l'impression que Guardiola a peut-être convaincu, je sais pas si c'est le mot adéquat, mais a fait en sorte qu'Aguero reste plus longtemps en Angleterre. On se rappelle qu'il avait fait beaucoup de déclarations en disant qu'à 28 ans, il voulait se barrer et retourner jouer à Independiente. Ça fait un moment où on l'a plus entendu parler de ça.
Bah, il a signé son nouveau contrat la saison dernière, là, dont il lui reste encore 18 mois. Et après, ça fera 10 ans qu'il est au club. Et là, il partira, il retournera, comme tu l'as dit, à Independiente.
Alors qu'avant, il avait dit que c'était à 28 ans max, il voulait faire ça.
Ouais, effectivement. Je pense que par son caractère, déjà, le fait qu'il habite tout seul, loin de son fils Benjamin et de sa famille qui est en Argentine, c'est vrai que 10 ans à Manchester, sous la pluie, j'aurais pas mis ma maison dessus. Mais effectivement, il fera ses 10 années et puis après il rentrera au pays.
Merci Julien.
Ciao Julien.
Excellent soir.
Bonne soirée, mon pote.
Tiens, messieurs, je précise également.
Merci, j'y vais, je vous raconterai.
Le Tottenham de Mourinho a gagné 5-0 ce soir contre Burnley. C'est la plus grosse victoire de Mourinho depuis janvier 2015 en Première Ligue. Voilà. Et que Chelsea a été battu par Everton. 3-1 au classement. City est donc 3e à 14 points de Liverpool. Ludo. C'est bon, c'est fait.
Je te l'ai dit que c'est plié. Je te l'ai dit, voilà. Ça fait 2 semaines que je te le dis.
Et cette semaine, ils sortent en Ligue des Champions. Pas grave.
Mais c'est pas grave. Parce que
je veux pas dire ça.
Mais c'est pas grave.
Il a raison, Ludo.
Faut faire gagner.
Attention, Hervé Salzbourg.
L'objectif, c'était
l'année dernière.
La Première Ligue.
Mais ça ferait tâche quand même.
Ça fait 30 ans qu'ils n'ont pas gagné.
Effectivement, priorité. Première Ligue pour Liverpool, bien sûr. Voilà pour l'Angleterre. Bonsoir, Polo Breitner.
Bonsoir Nico.
Salut Polo.
Salut Polo.
Plaisir de t'accueillir dans l'after. Bon, on va bien. Tiens, bonjour, justement, tiens. Nico Détroit sur Direct Studio nous dit Polo, Tourelle, je te le ramène en Volkswagen, en Allemagne, quand tu veux. Cadeau pour l'exclamation. Phil, je passe, Damit. Traduction, bon courage à vous.
Ça tombe bien,
Polo. Attends, Polo, laisse-le répondre à ça, Polo.
Laisse-le répondre à ça, Jonathan. Vas-y, Polo.
Vas-y.
Bon. Si tu veux, moi j'ai un vrai problème. Bon, je me rappelle quand même qu'avec Daniel on a écrit un livre sur Thomas Tuchel. Et en fait, donc ça fait 18 mois que quelque part il ne m'intéresse plus, Thomas Tuchel, parce que je n'ai jamais vu depuis son arrivée au PSG le Thomas Tuchel que j'ai connu en Allemagne. C'est-à-dire moi, tout ce qu'on nous avait dit sur Thomas Tuchel, sur son caractère extrêmement, extrêmement fougueux, etc., ou qui s'engueulait avec tout le monde, y compris avec les joueurs. Eh bien, depuis le départ, moi j'avais dit, si on le prend au PSG, donne-lui les clés du camion et laisse-le faire depuis le début. Et au bout d'un moment, une fois que le groupe explosera complètement, eh ben tu lui diras rentre chez toi. Là, je ne l'ai jamais vu parce que j'ai vu un Tuchel très gentil dès le départ en conférence de presse. Je vous rappelle les trois premiers mois où moi, pour moi, c'était vraiment, vraiment de la fumée médiatique. Où on a dit oui, il y a ceci, les grands joueurs, c'est pas quelqu'un qui est comme ça. Et comme par hasard, aujourd'hui, dans cette deuxième saison, ça va un peu moins bien, dans la presse française, vous appelez ça la calinothérapie, c'est fini. Moi, c'est ce Thomas Tuchel que je voulais voir. Et je ne l'ai jamais vu. C'est-à-dire qu'il y a un côté diplomatique qui me fatigue depuis 18 mois, donc il ne m'intéresse plus du tout, en fait. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu le Thomas Tuchel que je voulais voir, moi, mais c'est bon, voilà.
Ben voilà. Voilà pour le chapitre Thomas Tuchel. La canonothérapie, c'est terminé.
Je le récupère sans problème en Allemagne.
Hein, ouais, tu le prends au Borussia, un retour, non, je sais pas.
Non, ça va être
ça compliqué. Va mieux.
Ça
non,
va être compliqué.
Il le vole au Bayern, non?
Bah, il le souhaite au Bayern, mais c'est pas la priorité des priorités. C'est un peu compliqué au Bayern en ce moment, de toute façon, parce que vous savez qu'il y a un changement à la tête de la direction. Et puis, encore une fois, je le répète, la priorité des priorités, elle est en Angleterre. On vient d'en parler. C'est à Liverpool, sauf que il est pas libre.
Ouais, ça reste pas d'arriver, hein.
Ah oui, ça va être compliqué.
Ça va très vite dans le football.
Ils veulent Klopp au Bayern?
Oui.
Depuis longtemps, toujours.
Ah oui, mais c'est le rêve du Bayern, là, maintenant. Polo, match. Au sommet, Borussia Mönchengladbach, Bayern Munich, le Borussia, leader surprise de Bundesliga, a battu le Bayern 2-1 ce soir. Perisic ouvre le score pour le Bayern et réaction. Et là, pour nous, bon, c'est beau, hein, ça paraît un peu improbable pour certains, un René a mis un doublé, Rami Bensebaini, penalty à la 93e et un but juste avant.
Et il est bon, plus globalement, il est bon sur l'ensemble de la saison?
Ouais.
Ou c'est juste un match comme ça? Polo.
Bah déjà il est pas toujours titulaire, donc c'est Oscar Wendt normalement qui est l'international danois qui est normalement titulaire, mais là il est en train de prendre sa il prend sa chance et il fait son match à l'image de l'équipe. Encore une fois, je voudrais dire que c'est pas forcément le Borussia Mönchengladbach qui gagne, mais c'est plutôt le Bayern qui perd, parce que la première mi-temps a été dominée de la tête et des épaules, et c'est exactement le même scénario qui s'est passé le week-end dernier à Leverkusen. Et de toute façon, c'est ce qui se passe avec le Bayern globalement depuis le début de la saison, c'est-à-dire qu'il leur faut un nombre incalculable d'occasions pour le mettre au fond. Et écoutez, la première mi-temps, c'est une catastrophe, c'est-à-dire c'est même pas un duel de haut de classement de Bundesliga. Le Mönchengladbach à domicile a été complètement dominé. On va encore dire que j'attaque un peu trop les Français, mais Thuram et Pléa ont été catastrophiques, notamment Pléa, ah qui ouais. aujourd'hui a la tête dans le seau. C'est pas possible. J'ai même été surpris de sa titularisation. Et pour vous montrer les seules choses positives qu'ils ont fait les deux, c'est qu'on les a vus en défense à 70 mètres de leur position favorite, donc c'est-à-dire devant le but adverse.
Bah, Thuram, quand même décisif, hein, il provoque un penalty. Bon, ouais, d'ailleurs, il joue très bien le coup d'ailleurs. Il laisse traîner les pieds.
Oui, il joue très bien.
C'est surtout la faute de Kimmic et de Ravi Martinez cumulé, hein, qui fait.
On est d'accord. On est d'accord. Donc c'est vrai que pour beaucoup en Allemagne, il n'y a même pas pénalty. Mais au-delà de ça, c'est extraordinaire ce que fait Mönchengladbach, parce que c'est une équipe qui n'est pas la plus belle d'Allemagne au niveau du jeu et du contenu, mais c'est une équipe qui, à l'image de son coach Marco Rose, va chercher les points, y compris dans les arrêts de jeu. Ils font exactement la même chose en Europa League, demandé à la Roma ou à Besiktas. C'est une équipe qui ne renonce jamais. Et ça, je trouve ça assez extraordinaire en ce moment. C'est compliqué pour le Bayern, parce qu'ils sont aujourd'hui à 7 points de Mönchengladbach et à 6 de Leipzig.
Ils sont 7e pour le ce soir, le Bayern.
Ils sont 7e, ils, wow. ils sont sortis des listes européennes à l'instant où on se parle, évidemment. Mais surtout, c'est que l'année dernière, ils n'ont que 3 points de plus que 3 points de moins que l'année dernière à la même période. Donc on ne peut pas dire que ce n'est pas grave, ils ne sont pas si loin que ça, etc. Sauf que y a beaucoup tous les gros sont en haut, excepté Fribourg. Tous les hauts sont. Et donc on se dit, bah, ça peut venir de n'importe quel côté. Et donc le Bayern va devoir, journée après journée, et ben, cravacher pour revenir en haut du classement, ce qui, à mon avis, n'est pas si évident.
Et Polo, il va se passer quoi du coup au Bayern pendant la trêve?
Disons que le deux défaites à la suite, ça c'est très difficile au Bayern Munich
là,
officiellement.
Ouais.
Bon, déjà le coach a été énervé évidemment Hansi Flick, parce que lui il en a marre de voir 50 occasions et puis ça rentre pas au fond. Alors évidemment tu te retrouves quand t'es au Bayern et que tu perds deux matchs à la suite, de toute façon tu es fragilisé officiellement. Tout le monde est derrière Hansi Flick, mais tu sais, c'est sur la petite phrase mais quand le Bayern perd 3 petits points, et donc on va au moins voir ce qui va se passer jusqu'à la trêve hivernale. Ce qui est sûr, c'est que le Bayern doit remporter ses 3 prochains matchs. Ils ont de la chance d'avoir un calendrier relativement facile. N'oublions pas qu'à la 16e journée, par exemple, il y a un Dortmund Leipzig qui risque d'être un très très important.
Alors ouais, tiens, Polo, Leipzig, on pourra parler de Leipzig, prochain adversaire de l'Olympique Lyonnais, mardi soir, match décisif pour la qualif pour les 8e de Ligue des Champions. 5 victoires consécutives, victoire 3-1 contre Hoffenheim, avec encore un doublé de Timo Werner.
C'est
pas hyper rassurant pour l'OL, ça, ouais.
C'est une équipe qui tourne super bien en ce moment. Moi, je le dis tel que je le pense. Alors, je me suis fait avoir comme beaucoup de journalistes allemands. Je pensais que Dortmund allait vraiment être la tête d'affiche cette année de la Bundesliga. Et puis finalement, t'as le troisième larron Leipzig qui est là, qui a son nouvel entraîneur, évidemment Nagelsmann. D'ailleurs, n'oublions pas les deux premiers du classement. Ce sont les deux stars du football allemand au niveau des coachs. C'est Marco Rose, évidemment, qui arrive de Salzbourg, et c'est Nagelsmann qui était transféré justement de son ancien club.
Ah, ça, c'est son
football de l'avenir.
32 ans.
Il est plus jeune que Jonathan McCarthy, t'imagines?
Bah ouais.
Voilà. mais ce qui est très très intéressant surtout, c'est que l'équipe joue bien. Il y a un turnover. Nkunku était pas titulaire cette fois-ci. Et puis Timo Werner, quand il est comme ça, c'est difficile de l'arrêter. Faudrait-il encore qu'il le fasse systématiquement et à tous les matchs? Donc ils sont un peu sur un nuage en ce moment. Ils en profitent. Ils sont à un point de Mönchengladbach. Moi, je le dis surtout, il faut surtout voir qu'ils ont 6 points d'avance sur le Bayern, et on se rappelle du match match contre Leipzig, contre le Bayern à l'aller, où ils avaient été complètement dominés en première mi-temps et ensuite ça s'était fini sur un 1-1. Je pense que nous allons pas forcément une énorme surprise en Bundesliga, mais je pense qu'on va avoir une deuxième partie de saison où ça va être extraordinaire.
Et pourquoi pas Leipzig champion d'Allemagne?
Dortmund revigoré aussi, non, Polo?
Vas-y.
Ouais, alors c'est évidemment 5-0, ça tourne, etc. Le problème, c'est que Düsseldorf, il y a 8 joueurs à vocation défensive, ils ont mis le bus de départ, ça a pas tenu. Dortmund, c'était comme on veut le voir tout le temps, réparation.
On fait encore ça en Allemagne, Polo, on met encore le bus, ça arrive.
Quand t'es fortuné Düsseldorf, mais alors c'est dommage qu'Abib soit pas là, parce que c'était Friedel Funkel, le coach, qui est l'ancien
des anciens.
Qu'il a eu à l'Eintracht, et c'est vraiment dommage, parce que genre on aurait pu en parler, mais c'était là, c'est l'un des anciens qui jouait.
Ok, Polo, merci Polo. Excellente soirée à toi.
Tant que tu ne parles pas de Robin Doute, Polo, tout va bien.
Ah bah.
Bonne soirée, Polo. À très vite dans l'after, bien sûr. Dans un instant, Fred Hermel pour la Liga, les victoires du Real et du Barça. Et surtout, Simone Rovera, la première défaite de la saison de la Juve ce soir sur la pelouse de la Lazio Rome. À tout de suite.
RMC, l'afterfoot, Nicolas Jamain.
Jusqu'à minuit avec Jonathan Macardy, Ludovic Obraniak, bien sûr. On déroule le fil de nos matchs européens après l'Angleterre et l'Allemagne, place à l'Italie et à l'Espagne. Bonsoir, messieurs Fred Hermel et Simone Rovera.
Hola, chicos.
Salut, les gars.
Oh, Fred, il a
bonsoir. Bonsoir,
bonsoir, Fred.
Simone.
Fred, tu nous entends?
Oui, je suis là.
Oh, tu es bas.
T'es loin, hein?
T'es loin, Fred.
Bah, je sais pas.
Faut demander au
réalisateur de pousser le bouton.
Ouais, il s'appelle
Vas-y, chauffe, Marcel.
Chauffe, Toto. Vas-y, chauffe.
Marcel.
On va commencer par la Serie A parce que l'événement ce soir, désolé, Fred, hein, c'est. La défaite de la Juve.
C'est derrière Simonet, enfin, c'est un honneur. Donc.
La défaite de. De toute façon, ça peut déraper. Hein. Simonet, la Juve a perdu. Dérapé. Ça y est. Premier match de la saison, première défaite pour la Juve, battue par la Lazio. 3-1 ce soir. Bon, Rome, c'est pas non plus le dernier client de la saison en Serie A. Mais quand même, ça fait tâche. Je rappelle que Ronaldo avait ouvert le score. Luis Felipe, Milinkovic-Savic et Caicedo ont permis à la Lazio de battre la Juve 3-1. Justifié, logique.
Plus que justifié pour moi, plus que logique, même si pour la première 30 minutes, voilà, pour la première demi-heure, on avait vu une belle Juve, vraiment une très belle Juve qui dominait dans les jeux, qui était percutant, qui créait des occasions. Après, il y a eu un petit fait des jeux qui a tout changé, et c'est la blessure de Bettencourt, qui n'était pas titulaire en début de la saison. Il devient petit à petit un joueur important pour Maurizio Sarri. Ce soir, il a expliqué, c'est déterminant, c'est indispensable. Et la sortie de Bettencourt a changé tous les équilibres de la Juve, qui était plus lente à la manœuvre, qui n'a pas bien finalisé certaines occasions, qui a trouvé à petit un Cristiano qui avait démarré très bien, devenir un peu moins... un peu moins solide dans sa participation au jeu, un peu moins vite, et la Juve au final s'est retrouvée avec une attention qui diminuait minute après minute, et c'est pas un hasard que la Juve, qui généralement a toujours été une équipe très solide et très attentive, a pris un but dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, une de ces buts qui change tout. C'est vraiment un match qui a été décidé quand même par des épisodes, parce que la Juve qui casse un but à la dernière minute de la première mi-temps, ça change les choses. Dybala qui, sur une erreur du dégagement du gardien, il n'arrive pas à cadrer et il tire sur les gardiennes, il n'arrive pas à trouver le but et tire sur les gardiennes, et 3 minutes plus tard, il y a le deuxième but de la Lazio. Il y a les cartons rouges des Cuadrado sur une action de contre où Sarri avouait on a tout raté dans la position dehors la surface. C'est une action offensive de la Juve, une contre, et la Juve était totalement déséquilibrée. Donc dans les épisodes, la Juve a vraiment fait beaucoup d'erreurs à niveau individuel, et je pense qu'il y a certains joueurs qui on verra beaucoup moins d'ici qui vont partir. Emre Can, Bernardeschi, catastrophique. Bernardeschi ce soir, très mal pour moi aussi. De Ligt, qui avait fait très bien sur le dernier mois, et ce soir a fait un gros pas en arrière. Et la Lazio, on connaît la Lazio. Si tu les laisses du terrain, ils sont clairement la meilleure équipe italienne en contre. La Juve a fait 60% de possession, tu peux même faire 90% face à la Lazio et tu peux perdre. Et ce soir, c'était un scénario comme ça.
Et c'est étonnant qu'on n'ait pas vu Adrien Rabiot sur un match comme ça. Avec la blessure de Samir Khedira cette semaine. Il était blessé?
Non, Rabiot revient des blessures.
Okay, autant pour moi.
Non, revient des blessures, il n'est pas 100%.
Il était sur le banc quand même.
Ouais. Oui, mais je pense que Rabiot, on peut recommencer à le voir
en janvier.
Des champions face dans du match que pour la Juve a aucune signification parce qu'elle est déjà première de son groupe. Donc, elle doit retrouver vraiment de la condition aujourd'hui. Et Rabiot, c'est un peu un mystère pour la Juve parce qu'on ne les voit pas.
C'est pas un mystère, c'est que c'est un mec qui n'a pas joué du tout la saison dernière. Donc, pour reprendre le rythme, à mon avis, tu ne le verras pas avant janvier.
Mais il faut qu'il arrive parce que demain Bettencourt va passer les examens. On va voir si la blessure est grave ou pas.
Khedira est blessé, ouais.
trois mois sans Khedira, ça commence à devenir une situation compliquée. Emre Can, il est totalement pas concerné par les projets. Je dirais que chaque fois qu'il rentre sur le terrain, il le fait sans envie, avec seulement dans la tête l'idée de partir en janvier, après qu'il a les choix de cet été de le sortir de la liste de la Ligue des Champions. Donc aujourd'hui, il y a une vraie émergence au milieu de terrain, et dans l'après-match, Sarri disait on pourrait essayer Cuadrado ou Bernardeschi ou Ramsey dans le rôle de relayeur. C'est-à-dire que la Juve cherche vraiment de bricoler au max, et pour être l'équipe avec l'effectif meilleur de la Serie A, on se retrouve dans une situation un peu compliquée,
Du coup,
au-delà du classement.
Ouais, bon, c'est pas grave, il y a rien de dramatique pour la Juve, hein. Deuxième, deux points de l'Inter leader.
Il est content, Simone, là.
Oui, il est content. Bah il est content.
Non, mais
c'est au-delà de ça. Arrête, t'es content, à vous.
T'y crois ou pas, Simone?
T'y crois, à vous, Simone.
C'est l'année ou jamais, là, Simone.
Non, c'est pas l'année jamais pour l'Inter. Pour l'Inter, c'est les premières années d'une nouvelle phase du projet. Et les propriétaires Suning sont hyper puissants. Ils ont investi énormément d'argent. Cette année, pour la première fois, ils ont dépassé les 400 millions de budget total. Donc, c'est un club qui est en train de faire un gros pas en avant. Et ça, c'est les premières années de l'époque Conte. Personne demande à l'Inter de gagner les titres, même en interne. La seule chose qu'ils demandent, c'est de chercher d'aller plus loin dans la Ligue des Champions et d'arriver, d'augmenter, on peut dire, les classements, améliorer les classements de la saison dernière quand ils sont arrivés quatrième. Et attention, parce que la Lazio, ce soir, il est à 3 points de la Juve seulement. Donc, la Lazio, en silence, elle est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Petite bémol de la journée, il faut les raconter.
Très vite, vas-y.
De Napoli,
Fred attend.
Un partout de Napoli, et la situation de Carlo Ancelotti devient toujours plus compliquée.
Aucune victoire depuis la 8e journée, on en est à la 15e. Ça commence à être compliqué pour Carlo.
C'est historique. Je pense que depuis 10 ans, il y avait une série si négative des résultats de Napoli.
Ouais. Dur pour le Napoli. Hein. 7e de Serie A, hein. Déjà à 12 points, la 3e place. Justement, transition toute faite. Ciao, Simone. Merci.
L'atmosphère n'est pas non plus au beau fixe. Hein.
Bah, et Carlo, il souffre, hein, Fred. Hein.
Oui, alors on en parle un autre jour parce que j'ai plein de trucs à dire sur les Ligas, il reste 3 minutes. Non mais sérieux, parce que là aujourd'hui c'est passé plein de choses.
Voilà, bah, oui, et en même temps des trains qui arrivent à l'heure, mais des beaux trains, des magnifiques trains qui brillent, bien lustrés, le Barça, énorme face à Mallorca avec un triplé.
Le but de l'année, Fred.
De Messi.
Vous voulez que je vous parle de quoi?
Barça, du triplé pour commencer.
Du triplé de Messi.
Griezmann et Suarez.
Du but de Suarez ou de la deuxième passe décisive de Ter Stegen cette saison. Parce que c'est un truc de malade. On va commencer par le plus beau. C'est quand même le but de Suarez. Alors c'est une talonnade piquée à 2,50 m du but. C'est un but extraordinaire de Suarez. Enfin franchement c'est difficile à décrire.
Fred.
Pardon?
La construction du but.
Oui, bien sûr. Il y a la construction collective.
Magnifique.
On a vu un très bon Barça collectif ce soir. Enfin, mais la finition de Suarez. Et en fait, le Barça vient de mettre sur les réseaux sociaux un but dont je me souvenais pas, de Kluivert, qui est quasiment calqué sous le maillot du Barça, calqué sur celui de Suarez, ou plutôt le contraire. Donc ça, c'est vrai que Suarez, ils se sont fait plaisir ce soir les Catalans. Messi, 3 buts avec une facilité de sa patte gauche, mais hallucinante. Et puis, on va dire un mot de Ter Stegen, parce que vous savez, il est extraordinaire dans les buts. Ça, je vous l'ai déjà dit. C'est
meilleur gagnant du
Oblak,
monde. Hein.
Ça dépend. Hein, avec Oblak, c'est Oblak. Une semaine, c'est Ter Stegen. Mais après ce qu'il a fait dimanche dernier sur la pelouse de l'Atlético Wanda, j'y étais. C'est hallucinant. Et là, ce soir, c'est la deuxième fois. Il avait déjà fait un dégagement tellement rapide à Retafe qu'il avait offert une passe décisive à Suarez. Pour un contre extraordinaire. Et ce soir, pour le premier but du Barça, c'est sur Griezmann. Vous savez, un gardien qui traîne pas, qui regarde, qui relance comme s'il était un milieu de terrain. C'est-à-dire qu'il fait des passes de milieu de terrain. Et c'est le but de Griezmann, c'est avant tout, c'est 50% la passe décisive de Ter Stegen qui cette saison, c'est quand même extraordinaire. Donc le Barça va beaucoup mieux, le Barça est bien dans le jeu et surtout le Barça se fait plaisir.
C'est parfait, Fred, à une semaine là.
Ben oui.
À une semaine du Classico là.
Alors,
le Barça a répondu au Real qui a battu l'Espagnol 2-0.
Alors ça, c'était moche. C'était un match très moche. C'était un match de 13 heures contre l'avant-dernier de la Liga. On s'est vraiment ennuyé. Mais bon, Varane a marqué un beau but sur une passe décisive de Benzema. Benzema qui a marqué le deuxième but.
Encore.
Ce qui fait qu'aujourd'hui en Espagne, nous avons un duel entre Karim Benzema et Léo Messi.
Oui, ça alors, va pas tenir, ça. Messi va finir devant, Fred.
Bah, en tout cas, mais ça tombe bien parce que tu sais, on fait l'after tous les samedis. Donc, on peut faire un point tous les samedis si tu veux. On fait le point quand.
Bah, il est devant maintenant, Messi. Ça y est.
Alors, Messi, avec son triplé, on est à 12 buts. Benzema a 11 buts et ils sont tous les deux les deux meilleurs buteurs.
Oui, t'as vu la fréquence de Messi? Il part de plus loin, mais s'il a loupé un peu début de saison, là il enchaîne.
Vas-y. Non, mais c'est terminé parce qu'on va tout dire. Les deux meilleurs passeurs sont aussi Messi et Benzema avec 5 passes chacun. Donc c'est ça qui est magnifique. C'est-à-dire ce sont deux joueurs ultra complets qui sont dans une grande, grande forme. Oui, a priori, Messi va dépasser Benzema en tout. Enfin, on fera le point chaque semaine si ça vous dérange pas.
Ah ben non, Fred,
pour revenir sur le Barça. Aussi, on peut dire qu'ils reviennent parce que le bizutage est terminé.
Non. Bah,
c'est Griezmann.
J'ai l'impression
Griezmann,
quand même
on l'a vu 5 minutes ce soir.
Ouais, mais bon, je sens qu'il quand même.
Il commence à s'intégrer. Après, je vais pas vous dire que Griezmann a fait un grand match ce soir parce que c'est pas le cas. Il marque un but magnifique parce que c'est vrai que sur la passe décisive de Ter Stegen, il fait une petite balle piquée avec une facilité déconcertante, entre parenthèses, exactement ce qui manque à l'Atlético qui a encore fait match nul et qui n'a marqué que 16 buts en 16 journées. Oui, petit à petit ça se construit, mais on va pas dire que Griezmann a fait un grand match. Il a marqué un grand but, mais il a pas fait un grand match ce soir. Sinon, un petit mot sur Gamero. Il y a longtemps qu'on n'a pas parlé de Gamero.
Oui, le doublé.
Doublé en 2 minutes, et ce qui a permis une magnifique remontada de Valence qui gagne à l'Éventé dans le derby de Valence 4-2. Et puis je vous annonce déjà pour le week-end prochain, il y a la Ligue des Champions, mais on sait déjà que le Real et le Barça sont qualifiés. On a, avant le Classico qui aura lieu le mercredi 18, nous avons un somptueux Real Sociedad Barça et un autre sûrement somptueux Valence Real.
Ah oui.
Donc les lignes pourraient bouger parce que tous les deux sont collidaires. Le Barça devant la différence de but, mais ils ont chacun le week-end un déplacement très difficile, donc on va se régaler.
On va se régaler comme tous les week-ends, notamment en Liga. Merci Fred, excellente soirée.
Adios, chicos.
À très vite dans l'after, bien sûr, dès demain, certainement, je ne sais pas, on verra ça. Merci Ludo.
Merci à vous.
Merci Jonathan.
Salut les gars.
Pour une fois, on rappelle la victoire d'Anthony Joshua quand même, qui nous a accompagné dans l'after face à Andy Ruiz.
Très bien.
Et a priori, ils ont annoncé peut-être, ils sont ouverts à un troisième combat.
Normal.
Si Wilder bat.
Est-ce qu'il a encore une chance de battre Joshua?
Oui, clairement. Si Wilder bat Fury, rêvez pas, ça sera Joshua Wilder qui se passera.
Avec une limite de poids pour Ruiz quand même, parce que là. Le cirque, ça va 5 minutes.
Il a dit dans son interview.
Je rappelle
le poids m'a beaucoup affecté.
Je rappelle on est en train d'affiner la date et le rendez-vous, le combat entre Ludo Bragnac et Jonathan McCarthy.
Ouais.
Ce sera sûrement fin mai, 28 mai peut-être.
Jonathan essaiera de saloper le match, comme il l'a dit.
Salir le match.
Voilà. Parce que c'est sa mentalité.
Mais c'est même pas
tout le respect, j'ai pour toi. On est un peu sur une confrontation Joshua Ruiz.
Un petit peu, ouais.
Allez les gars,
ça tu vas le payer.
Excellente soirée à tous, merci d'avoir écouté l'after, à très vite. Dès demain soir bien sûr pour l'after après OM Bordeaux. Bye bye.
RMC. L'after foot.
Make their Christmas wishes come true. Whether they love Disney's Frozen 2, want to jet off on Barbie's dream plane, or ready up with the Fortnite Battle Royale collection. At littlewoods.com, you'll find all the toys they love, all with inclusive delivery and free returns. Own Christmas. Shop now at littlewoods.com.